bienvenue sur Radio Capsule 94.5 FM. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Perel, Athanaël à la régie technique et moi-même Nusra.
Nous sommes élèves de 3e, nous recevons aujourd'hui une délégation québécoise dans le cadre du colloque franco-québécois qui se tiendra demain à Melun.
Le thème de ce colloque est du décrochage à la persévérance scolaire, tous mobilisés. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio messieurs Éric Desmers.
Bonjour.
Étienne Page.
Bonjour.
Et Jean-François Bouchard.
Bonjour.
Alors, on va commencer par la première question. Quelles sont les raisons de votre venue en France?
En fait, vous l'avez dit en introduction, on est là pour participer demain à un colloque sur la persévérance scolaire. Et on a la chance aujourd'hui d'être dans votre collège. Et on nous a présenté différentes initiatives avec des enseignants très intéressantes, les deux. La première traitait du harcèlement scolaire et la seconde, c'était de monter une entreprise pour un groupe classe, une entreprise autour du recyclage des canettes.
Et pourquoi avoir choisi notre collège?
En fait, on n'a pas choisi votre collège. on a une visite qui est déjà organisée, alors on est très content d'être ici avec vous parce que vous savez, moi je suis un ancien directeur d'école, donc pour vous un principal, et j'étais dans une école en milieu défavorisé, un peu comme votre école. Alors l'idée, je crois, de se retrouver dans un milieu comme ici, ben ça nous permet d'avoir des choses, de comparer des choses qu'on connaît, par exemple, à Montréal et à Melun. Alors, il y a comme une espèce de niveau de compréhension qui est similaire à ce que vous connaissez.
En fait, comme dans une classe, ben, entre les Québécois et les Français, on partage, on échange et on tente de voir comment chez nous on intervient et les choses qu'on fait bien et les choses que vous faites aussi qui ont un impact sur le décrochage scolaire. On partage nos apprentissages communs.
Troisième question, quelles sont vos professions respectives?
J'ai été pendant quelques années coordonnateur d'un groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaire au Québec. Ouais. En fait, au Québec, une des raisons qui a fait en sorte qu'on a pris conscience qu'on avait un réel problème au niveau du décrochage scolaire, c'est des aspects purement financiers. On a été capable de démontrer que pour un jeune qui n'avait pas son diplôme, grosso modo, dans sa vie, il gagnerait 450 000 $ de moins que quelqu'un qui a un diplôme. Qu'il aurait plus de chances d'être incarcéré, qu'il serait probablement que sa durée de vie serait plus courte. Donc, tous ces facteurs-là démontraient que on avait un réel besoin de faire en sorte qu'on se préoccupe du décrochage scolaire et qu'on raccroche le plus de jeunes possible pour, à tout le moins, avoir une première qualification et être en mesure d'avoir tout ce qu'il faut pour être un acteur de sa vie et un acteur de changement de sa propre vie.
Là, tu as parlé en dollars, mais est-ce que tu peux nous dire ça en euros?
mon Dieu, 300 euros? 300 000 euros? De moins.
D'accord. Est-ce qu'on continue? Ou?
Comme vous voulez, si vous voulez qu'on continue.
Moi, je suis du milieu associatif, en fait. Oui. Je suis en charge d'une association qu'il y a beaucoup de projets qui travaillent la persévérance scolaire. Donc, en fait, au Québec, il y a eu un constat, il y a quelques années, de dire que la persévérance scolaire, c'était peut-être pas seulement une prérogative de l'école, mais que toute la collectivité devait participer à cet effort pour que le plus de jeunes réussissent, persévèrent et ne décrochent pas. Donc, c'était de dire, il y a une partie de la solution qui peut aussi appartenir aux associations parce qu'ils ont une expertise et des capacités qui font qu'on travaille avec des collèges pour justement s'assurer que le plus de jeunes obtiennent un diplôme.
Alors moi, tantôt, je voulais un petit peu mentionner, j'étais un directeur d'école, mais maintenant, ça s'appelle directeur de réseau. Alors, je m'occupe de... Je m'assure que dans... J'ai deux grandes villes. J'ai une ville qui s'appelle Anjou, où il y a à peu près une vingtaine d'écoles. Et j'ai une autre petite ville qui s'appelle Saint-Léonard, qui a aussi à peu près une vingtaine d'écoles. Alors, moi, je m'assure que le travail qui se fait dans chacune de ces écoles-là est conforme à ce que le ministère attend. Alors, moi, c'est mon travail aussi de travailler, d'être en collaboration avec M. Étienne ici à côté, parce que Étienne, lui, il m'offre un service que l'école n'a pas nécessairement. Et ensuite, je suis intéressé aussi à travailler avec des gens qui travaillent de très près avec, avec des chercheurs, parce que la littérature nous dit que quand on se fie à ce qui se fait dans les recherches, des grandes, grandes recherches sur l'éducation, bien, ça peut avoir des effets positifs dans nos écoles. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'effet que tout ce qu'on met en place, l'effet que l'élève va pouvoir avoir dans sa classe. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Le reste, avant, là, ça, c'est un travail d'administrateur, mais si l'élève est capable d'avoir un petit quelque chose de plus, alors moi, je suis satisfait. C'est ça, mon travail.
D'accord. Avez-vous appris des choses intéressantes ce matin lors de la visite de notre établissement?
Ben oui. Moi, je me rends compte qu'une école au Québec ou une école ici à Melun, c'est à peu près la même chose. Vous avez les élèves ont les mêmes intérêts, ont les mêmes préoccupations. Tout à l'heure, on a eu la présentation d'une petite capsule vidéo qui a été fabriquée par des élèves sur le harcèlement. Alors, le harcèlement, je pense que c'est international, c'est pas juste propre à la France, c'est propre un petit peu partout, et spécifiquement aussi à Montréal, il y en a beaucoup. Alors, la grande différence que moi je trouve dans les écoles, moi, c'est l'environnement alentour de l'école qui est complètement différent. Je trouve pas ça très verdi, entre autres. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de béton.
C'est plus parce que c'est plus vers la cité, au fait.
Oui, ah, c'est ça. Moi, je pense que si on pouvait envoyer un message aux élus, moi, j'aime ça parler aux élus. On pourrait leur dire, c'est vous, ça, madame, de l'autre côté? Alors, des fois, les élus, en travaillant en collaboration davantage avec les écoles, et souvent, c'est pas nécessairement pour demander de l'argent. Des fois, c'est toujours pour avoir un espèce de pouvoir d'influence pour modifier un environnement, parce que pour moi, un environnement sain, et un environnement sain et sécuritaire, bien, ça a un effet nécessairement sur la persévérance scolaire. Quand c'est beau, les élèves aiment ça. Quand c'est beau, les élèves veulent rester à l'école. Ça, c'est ma philosophie à moi.
Alors, pensez-vous que cela puisse aider les élèves québécois?
Ce qu'on a vu ici?
Oui.
Oui, bien, on fait grosso modo les mêmes trucs, mais de façon un peu différente, parce que le système scolaire n'est pas conçu de la même façon. Et il y a beaucoup, beaucoup de progrès ici, sur de nouvelles façons d'aborder l'école, d'intervenir en bienveillance avec vous, les élèves, de faire en sorte qu'on puisse développer le potentiel de chacun. On n'est pas tous faits pareil, donc on n'interviendra pas de la même façon avec quelqu'un qui a plus de difficultés que quelqu'un qui en a moins. Donc, je pense que nous apprenons mutuellement.
L'école est-elle obligatoire au Québec? Si oui, jusqu'à quel âge?
16 ans.
Ah, c'est comme un peu en France, au fait.
C'est un peu comme vous, effectivement.
Ouais. De quel âge à quel âge?
On commence l'école
dépendant les quartiers, dans les quartiers plus défavorisés. On va commencer, on va commencer à l'âge de 4 ans. Donc, on appelle ça les maternelles 4 ans. Après ça, il y a des maternelles 5 ans. Pour les 4 ans, ce sont souvent des élèves ou des enfants qui ont un petit peu de problèmes avec, la littératie. Donc, c'est des élèves qui n'ont pas été stimulés à la maison ou dans des familles où on ne retrouvera pas ni un livre, ni un journal, ni une revue. Même, des fois, il n'y a même pas de télévision. Alors, c'est des enfants qui ont été sous-stimulés. Alors, nous, on s'organise pour les prendre en charge dès l'âge de 4 ans, parce que les recherches nous disent que quand on les prend plus rapidement, donc en prévention, bien, ça a un effet positif sur son rendement scolaire tout au long de sa vie.
Pourriez-vous nous expliquer le système d'évaluation des élèves au Québec? Cela fait-il avec des notes ou des validations de compétences?
On a eu, il y a eu une grande réforme du système scolaire, entre autres, là, pour ne pas rentrer dans tous les détails qui pourraient être un petit peu lourds. Là. On a vécu l'élimination complète des notes. Okay. Oui. Ensuite de ça, on a eu des évaluations, là, je vais caricaturer un petit peu, mais des évaluations avec des bonhommes sourires, un bonhomme sourire, un bonhomme avec la bouche à l'envers et tout ça. Là, on est allé dans un autre extrême qui était complètement ridicule. Et là, on est revenu à une espèce d'équilibre entre des notes et des compétences, un petit peu comme vous. Et nous, on fait beaucoup appel au jugement professionnel des enseignants. Par exemple, un élève qui pourrait avoir beaucoup de difficultés en début d'année scolaire, où ses notes sont très basses, mais on sent une progression durant l'année, bien, cet élève-là, avec un jugement qu'on nous appelle un jugement de maîtrise, bien, on est capable de dire, bien, malgré le fait que ça a été difficile en début d'année, bien, on va le faire réussir, il va pouvoir passer au niveau supérieur. Donc, ça résumerait un petit peu là, les façons de faire au niveau de l'évaluation.
D'accord. Et nous avons dans notre établissement un taux de réussite entre 80% et 90% au brevet des collèges. Avez-vous un examen comparable et quel est le pourcentage de réussite de vos élèves?
Le brevet de collège, c'est l'examen à la fin du collège?
À la fin du collège, pour passer au lycée.
Pour passer au lycée. Ouais.
En troisième.
On n'a pas d'examen qui sanctionne la fin de l'équivalent du collège chez nous.
C'est un peu comme au brevet. En fait, au brevet, quand tu n'as pas ton brevet, on peut le repasser l'année prochaine au lycée.
Ben, c'est sur les notes globales de l'année. C'est ça, c'est sur les notes de toute l'année.
Ouais.
Donc, si tu réussis français sur toute l'année, je ne me trompe pas, tu vas avoir ton brevet. Il n'y a pas d'examen à la fin qui récapitule tout ça.
En quelques mots, quelle action avez-vous mise en place pour favoriser la persévérance scolaire?
Ben, moi, comme directeur d'école, toutes mes décisions étaient prises en fonction que l'élève était au cœur de son apprentissage. Alors, c'était tout le temps, toutes mes décisions là, comme directeur d'école, où je vais mettre des sous, je vais mettre de l'argent, c'était pour l'élève, pas pour l'adulte. Vous comprenez? Fait que je m'organisais, évidemment, dans un pouvoir d'influence comme directeur d'école avec les membres du personnel. Il fallait toujours que les projets qui étaient mis en place aient un impact chez l'élève. Pas pour le confort des adultes, parce que souvent, on met des choses en place, c'est pour réconforter hein, les adultes qui sont alentour dans l'école. Mais moi, j'ai complètement renversé cette tendance-là en disant, ben, on va s'investir dans une mission pour aider les élèves. Alors, moi, c'était hyper important et je voulais qu'on ait une proximité. Je veux que les enfants soient connus de l'ensemble des membres du personnel. Et moi, je me faisais une fierté quand je remettais le diplôme, de remettre un diplôme en main propre, mais en nommant l'élève, même si j'en avais 2000 élèves dans ma grande école. Bien, quand je remettais le diplôme, je te disais, bien, M. Éric Demers, félicitations. M. Étienne Pagé, félicitations. Alors, ça, c'était une proximité qu'on essayait de développer avec... avec nos élèves.
À d'autres niveaux, moi, à titre de directeur national des Journées de la persévérance scolaire, mon objectif, c'était de mobiliser le plus d'acteurs possible autour de la question du décrochage scolaire, parce que le décrochage scolaire, c'est multifactoriel. Donc, les parents ont un rôle à jouer, la communauté a un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer, et ensemble, si on joue tous notre rôle de la meilleure façon, bien... Et il y a de fortes chances que tout le monde réussisse et au moins qu'on soit sensibilisé à cette question-là. Donc, au niveau de la classe, puis de l'école, il y a des interventions. Au niveau de la société et de la mobilisation des acteurs, il y a des interventions. Puis au niveau d'associations comme Étienne, là où il intervient, ben ils mettent en place des projets plus structurés en direction des jeunes qui sont réellement en difficulté. Mmh.
Un exemple concret, on a ouvert, parce que Jean-François tout à l'heure parlait de l'importance d'avoir des milieux où est-ce que les jeunes ont envie d'être là. Et dans une des écoles, ce qu'on a ouvert, c'est un café étudiant. Ça peut paraître banal, mais il est géré par des jeunes. Donc, il y a 12 jeunes qui gèrent ce café étudiant comme une entreprise avec des comités ressources humaines, direction, marketing. Et en fait, ils vendent comme une cafétéria. Et en fait, ce que l'école nous a demandé, c'est de l'ouvrir après les heures de classe. Parce que justement, les jeunes après les classes, ceux qui n'étaient pas dans les classes de récupération ou dans les équipes sportives, c'était de dire, mais il n'y a rien pour ces jeunes-là. Donc, ils traînent un peu, ils ne savent pas quoi faire. Donc, d'avoir un lieu qui leur ressemble permettait justement de rester dans un milieu où est-ce qu'ils vont être stimulés, où est-ce qu'il va il va avoir des activités qui leur correspondent et qui impactent sur le sentiment d'appartenance à l'école, de dire « je suis fier de mon école, je l'aime, elle est belle et c'est là que je vais réussir ». Donc, ça, c'est un peu le rôle que des associations comme la mienne peuvent mener en partenariat avec, avec les collèges.
C'est ça. Puis, tu sais, vous savez, je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation-là, mais on dit tout le temps que tout seul, on va plus vite, mais en équipe, on va beaucoup plus loin. Alors, c'est un petit peu ça l'idée de se retrouver avec des collaborations avec plein de gens. Parce qu'un directeur d'école tout seul, il ne peut pas arriver à faire des grandes choses. Il a besoin de tout le monde. Il a besoin de s'entourer de gens qui sont compétents et de surtout avoir l'humilité de dire qu'il y a des gens qui sont aussi bons que nous alentour. Parce que l'objectif ultime, c'est lequel? Je le répète depuis tantôt, c'est pour les élèves. Si les élèves sont bien dans leur milieu, bien, ils vont vouloir rester dans leur milieu. Donc, quand ils veulent rester, bien, le niveau de persévérance. Moi, j'ai éliminé le mot décrochage. Pour moi, le mot décrochage a une connotation négative. Alors, moi, je préfère toujours parler de grande persévérance
d'aller
scolaire.
Loin.
Pardon?
D'aller loin. Dans
les... D'aller loin, d'avoir des attentes toujours élevées. Oui. Toujours, toujours, toujours. Moi, un élève qui se retrouve dans un milieu défavorisé, pour moi, dans mon schéma de pensée, a autant de chances qu'un élève qui va se retrouver dans un quartier favorisé. Mais ça, il faut que le leader pédagogique de l'école croit en ce qu'il dit. Sinon, on va nulle part avec ça. Fait que si moi, dans ma tête, je dis, ben, j'ai pas confiance aux élèves, ben, ils pourront pas obtenir...
C'est l'idée que tout le monde doit s'impliquer pour la réussite des jeunes. C'est ça l'idée.
Exact.
D'accord. Et avez-vous des questions à nous poser?
Questions.
Comment avez-vous trouvé l'entrevue?
Ouais, très intéressant.
Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris?
Non, il y a des mots qu'on a tous compris.
Non, mais avec le contexte, on comprend.
En fait, j'ai une question quand vous avez parlé de la communauté, en fait, c'est de quelle communauté, en fait?
Peut-être que le mot communauté n'a pas la même connotation en France qu'au Québec, mais la communauté, c'est tous les acteurs qui ont un rôle à jouer en relation avec l'école. L'école, les recherches, Jean-François parlait des résultats de recherche qui démontrent que l'effet enseignant est un des facteurs les plus importants. Donc, votre enseignant, c'est celui qui a le plus d'impact sur votre réussite, après vous, hein? Bien sûr, vous êtes le premier porteur. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a d'autres acteurs dans la société, il y a d'autres acteurs autour de votre école.
Ici, dans la collectivité, dans le quartier,
oui,
en fait.
Sur le territoire, qui peuvent avoir un impact sur votre réussite. Chez nous... vous avez 14, 15 ans ou 14 ans. À partir de 14 ans, on peut travailler. Avoir un petit boulot le soir, travailler.
C'est bien,
ça peut faire un peu d'argent de poche.
Ça fait un peu d'argent de poche et ça nous montre déjà c'est quoi le monde du travail, au fait.
Exactement. En même temps, si vous travaillez 20 heures semaine et que votre premier métier, c'est d'être étudiant, ben, ça peut avoir une influence négative sur votre rendement scolaire. Donc, on travaille avec les entreprises pour expliquer aux entrepreneurs que, ben, grosso modo, 10 heures, 15 heures semaine, c'est un maximum. Pour certains élèves, ça peut être plus, mais pour d'autres, ça peut être moins. Et surtout, de faire attention, de ne pas embaucher ou de donner trop d'heures dans les périodes d'examen. Par exemple, avant Noël, il y a des périodes d'examen importantes chez nous. Donc, de diminuer le nombre d'heures et de permettre à un étudiant qui travaille de ne pas être disponible à un moment donné parce qu'il y a du travail. Donc, on travaille avec les entreprises. On travaille avec les villes pour créer des environnements où c'est plus agréable, comme le disait Jean-François, de vivre dans les écoles. Donc, tous les acteurs ont un rôle à jouer dans notre société et c'est ce qu'on tente de faire.
Tu vois, moi, je signais des ententes avec les entrepreneurs, tous les propriétaires de magasins ou de toutes sortes de petites choses alentour de l'école. Ouais. Je signais des ententes où ils s'engageaient à jamais donner plus de 10 heures par semaine à des élèves, ouais, parce que ça aurait eu l'effet inverse.
J'ai déjà dès qu'on rentre de l'école, on est assez fatigué pour après rajouter.
C'est ça. Ouais. Donc, moi, je voulais que l'élève puisse avoir du temps pour faire ses travaux, ouais, à la maison, ouais, pour pouvoir faire ses leçons et tout ça, parce que, ouais, souvent, il y a des examens. Donc, c'était un 10 heures maximum. Donc, ouais, l'engagement de la communauté, donc de tous les acteurs, c'était maximum 10 heures. Ouais. Alors, ça, pour moi, c'était rassurant parce que je savais que un tel, ouais, il donnait juste un certain nombre d'heures. Parce que c'est sûr que c'est tentant, hein, de, ouais, dire, je vais faire des sous, je n'ai plus besoin d'aller à l'école.
Ah.
Ah. Mais travailler juste avec un petit salaire, quand on veut faire une vie, ben, la démonstration, elle est facile.
On parlait tout à l'heure du salaire. Si on n'a pas notre diplôme, on va gagner moins. Et bon, l'argent, c'est une chose. C'est pas la seule finalité. Mais pour faire ce qu'on veut, pour aller au-delà de ses rêves, ben, il faut avoir le diplôme et surtout le travail qu'on va aimer faire tout au long de notre, ouais, vie.
Puis l'école, ouais, était devenue, là, il y a sûrement du temps, hein, là, qui file. Là. Ouais. Mais moi, entre autres, là, je faisais des ententes, entre autres avec la mairie.
Ouais.
Ils nous donnaient des sous pour qu'on puisse engager des élèves, entre autres, juste à s'organiser pour faire la propreté alentour de l'école. Ouais. Il y en a d'autres, on a parlé du café étudiant. Donc, on avait des subventions qui nous permettaient à nous de gérer les élèves à l'école.
Ouais.
Ça, c'était hyper agréable parce que l'élève, il avait, son école n'était pas juste un milieu scolaire, mais ça devenait un milieu de vie où le sentiment d'appartenance était très, très, très élevé. Donc, si le sentiment d'appartenance, par exemple, au collège ici, les Capucines,
ouais,
ou Capucins?
Capucins. Bon, disons, on va conclure. Merci d'avoir beaucoup répondu à nos questions. C'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu.
Merci à Amélie et Mme Walter, notre professeur d'histoire-géographie, de nous avoir aidés à préparer cette interview, et Marco à la caméra.
Vous étiez en compagnie de Yusra Tanel à la technique et moi-même Pierre et Marco à la caméra.
À très bientôt sur Radio Capucin 94.5 FM. Restez branchés.
Merci à vous.
Merci. Doesn't